Christophe Maury.
Le 13 novembre 1872, Claude Monet a 32 ans. Il séjourne au Havre dans un petit hôtel sur le port. Lui, le peintre du plein air, sait combien la fugacité de la lumière donne l'urgence de peindre. Et là, il y a une urgence. Le soleil se lève-t-il ou se couche-t-il? C'est pourtant le matin. Une barque passe au loin et la lumière caresse les flots comme des écailles de feu ou des larmes de couleur. Il y a urgence de toute façon. Monet saisit une toile, un moyen format. Ce qu'il a sous la main, il peint. Ce sera impression au soleil levant. Des impressions qui donneront à un critique d'art de lancer le mot impressionnisme. La toile est le joyau de la collection permanente du musée Marmottan dans le 16e arrondissement, au bout du jardin du Ranelagh, vous savez, dans ce palais de Paul Marmottan, propriété aujourd'hui de l'Institut de France. Impression au soleil levant est un ami qu'on visite. Ça fait 150 ans que la toile frappe les regards et qu'elle suscite une étrange respiration par des vibrations singulières qu'elle procure. Ça valait le coup de la mettre en majesté. Alors, le musée Marmottan et le musée Barberini de Potsdam se sont associés à travers la relation de deux commissaires, Marianne Mathieu et Michael Philippe. Stéphane Covio, vous emmenez vos groupes de l'association Venez et Voyez que vous avez fondé, vous nous emmenez avec eux au cœur de cette exposition qui s'appelle Face au soleil, un astre dans les arts, c'est au musée Marmottan. Alors tout de suite, Stéphane Covio, quelles impressions?
Très bonne impression. Très bonne impression. Et vous entamiez cette émission avec le tableau dont c'est l'anniversaire.
Et, oui.
Et qui est le prétexte pour l'organisation de cette exposition sur le thème de la représentation du soleil. J'ai regardé à nouveau ce tableau de ce fait. Et cette fois-ci, parce que vous savez qu'à chaque fois, la rencontre avec un tableau, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et bien cette fois-ci, c'est très précisément le soleil qui m'a frappé. Et notamment la manière dont Monet l'a peint. Parce qu'on a une surface qui est globalement grise, c'est un ciel gris, tout est gris, l'ombre du matin, les brumes, etc. Et on a un coup de pinceau qui fait le tour d'un cercle, on dirait un petit bonbon, et il y a du relief, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relief de matière, mais en fait, le coup de pinceau rouge est inégal, c'est-à-dire que d'un côté il est sombre, de l'autre côté il est clair, et du coup ça fait comme un volume. Et on a un petit volume, une espèce d'anneau en relief qui fait le tour, et au centre une tache dans un autre sens, et ça donne une vie particulière à cette petite bille orangée rouge au milieu de cette toile qui vibre, qui ressort.
Ah,
il y a une vibration de cette orangée incroyablement intense sur dans cette matinée du 13 novembre.
Alors c'est extraordinaire parce que à chaque fois qu'on passe, on fait la génuflexion presque quand on arrive chez Monet à Marmottan. Et là, cette idée d'exposition face au soleil, un astre dans les arts, permet de décliner. J'ai envie de dire de décliner un peu ce tableau et de voir de façon aussi assez didactique comment le soleil intervient dans les arts. Alors, ils reprennent le soleil religieux qui est représenté, mais dans cette exposition, c'est moins le soleil religieux que aussi le soleil romantique qui m'a beaucoup touché, moi.
Oui, et en fait, d'une certaine manière, le soleil, c'est toujours plus ou moins religieux, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que même dans un tableau...
Il y a un côté transcendant.
Mais oui, c'est-à-dire que le soleil, c'est quand même le soleil.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que c'est la source de la lumière, c'est la source de la chaleur. D'une certaine manière, c'est la source de la vie. D'une certaine manière, il est irreprésentable.
Oui.
D'une certaine manière, on ne peut pas le regarder en face. Vous voyez, ce sont toutes séries d'impressions ou de choses que l'on dit à propos du divin, d'une manière générale. Mm-hmm. Et c'est pas pour rien que de nombreuses cultures, depuis la nuit des temps, ont divinisé le soleil.
Bien sûr.
Et quand vous voyez un homme...
L'Égypte...
Voilà. Et même Turner...
Alors, on va en parler,
Turner meurt quand même en disant cette phrase. Alors, on ne sait pas si c'est une légende ou si c'est vrai, mais il meurt en disant... Ses derniers mots auraient été « Le soleil est Dieu ». Vous voyez, donc quelque part, quand on voit un soleil lumineux au milieu d'un tableau, en tout cas le récepteur de l'image,
il y a
une transcendance qui apparaît.
J'ai été moi frappé dans l'accrochage par une sorte de dialogue entre l'étoile de Caspar Friedrich et celle de Turner qui n'ont rien à voir les unes les autres, et pour autant, il y a une, je ne sais pas, quelque chose de commun, forcément le soleil, mais un traitement que j'ai trouvé pour la première fois, de façon assez saisissante, pas jumeaux, mais voisins.
Alors, ce que vous dites est très juste, et c'est une chose qui m'a frappé dans l'exposition, et c'est dû à la qualité des œuvres présentes dans l'exposition.
Et l'accrochage.
Il y a un très bon choix d'œuvres,
ouais.
Et en fait, on fait des liens, évidemment, entre les tableaux. C'est une exposition pour véritables amateurs de peinture, parce qu'il y a des très belles toiles. Et notre poésie personnelle, c'est-à-dire notre capacité à donner du sens à ce qu'on voit et à faire des relations entre ce que l'on voit, ce que l'on a comme référence intériorisée et d'autres tableaux que l'on voit, et faire vivre tout ça, eh bien l'exposition le permet. Alors vous avez fait le lien avec le tableau d'Autodix, d'ailleurs un tableau d'Autodix que personnellement je ne connaissais pas du tout. C'est une découverte, je pense, cette œuvre pour beaucoup de visiteurs. Quand j'ai vu cette œuvre, j'ai pensé à un Van Gogh.
Oui.
Alors, c'est un Dix de 1913 et effectivement il est le témoin de la réception de Van Gogh en Allemagne par les peintres allemands, et parce qu'il est très très en matière. Il y a des touches très très épaisses de blanc, de gris sur le sol, avec des oiseaux noirs sur fond de ce sol couvert de neige et froid, et on a un immense soleil rayonnant au centre de la toile qui part en grands coups de pinceau jaune, blanc, noir tout autour, évidemment, de son centre. Et ce qui m'a frappé en voyant ce soleil, c'est la sensation de froideur. On est glacé.
Oui.
C'est étonnant qu'un tableau qui représente le soleil provoque une sensation de froid. Alors je me suis dit, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là qui crée ce froid? Alors je pense que c'est des jeux de couleurs, tout simplement. Il y a des verts dans le jaune, il y a des gris dans le jaune, il y a ce blanc, il y a ce noir, et il arrive à transformer le jaune en couleur froide dans cette composition.
Alors, à travers les âges, notre perception du soleil évolue. On est Dieu dans l'Antiquité, on en a parlé. Il est une simple étoile dans le cosmos, après la théorie de la relativité d'Einstein. Puis, entre-temps, on a Louis XIV qui en a fait son alter ego. Et l'exposition à Marmottan, face au soleil, un astre dans les arts, nous propose un peu tout ce parcours-là. Et il y a un moment donné où la science prend le pas sur l'esthétique et on a un retour de bâton avec le romantisme.
Alors, à quel moment vous le situez-vous, là? Parce que c'est vrai qu'en fait, la science va commencer à s'intéresser à la nature même du soleil, me semble-t-il, à la fin du 19e siècle.
Mm-hmm.
En revanche, on peut parler de science déjà depuis longtemps, avec l'astronomie, avec la question de l'héliocentrisme, la question de la manière dont le ciel s'organise, en fait.
Et tout ça est posé dans l'exposition.
Alors,
sans que ça soit trop didactique, tout ça est quand même dit.
Oui, tout ça est dit. Et alors, j'avouerai que personnellement, je n'ai pas été très concerné dans ma visite par les liens entre la manière dont la science avait changé le regard sur le soleil et la manière dont les peintres l'avaient envisagé dans leurs tableaux. Vous, qu'est-ce qui vous a frappé
ce qui m'a frappé, c'est que le discours scientifique est complètement balayé par le discours romantique de Friedrich.
Ah ben alors là, moi, je suis bien d'accord avec vous. Et d'une manière générale...
C'est étonnant, comme on a l'impression que la nature reprend, enfin, à travers l'art, dans cette exposition à Marmottan, l'impression que la nature reprend ses droits.
Oui, la nature, et je vais vous dire très clairement, la spiritualité,
oui,
avec Friedrich. Alors, il y a deux tableaux, vous savez que c'est rare, deux tableaux de Friedrich. Hein. Il n'y a pas beaucoup de tableaux de Friedrich dans le monde. Et là, on a deux petites toiles, très belles, toute simple, très forte. Il y en a une qui représente les saintes femmes qui vont au tombeau le dimanche de Pâques. C'est un tableau qui est un rectangle vertical. On a des arbres morts, pas encore en feuilles, donc c'est vraiment le printemps n'est pas vraiment encore présent dans la végétation. On a cet arbre à gauche, un arbre à droite qui ferme l'image. On a la route très en bas, parce qu'en fait le point de fuite de cette composition est très bas, donc on est vraiment au niveau du sol, on est dans l'obscurité, on voit de la boue, on voit des traces de chariots peut-être, et on voit trois femmes qui nous tournent le dos et qui sont en chemin, puis en faisant attention on en voit deux, trois autres qui sont par-ci, par-là en avant, et qui se dirigent vers, suppose-t-on, le tombeau, et au sommet de la composition, on a la petite bille du soleil, parfaite orbe lumineuse qui éclaire dans des roses et dans des orangers toute la composition, et on a vraiment là le soleil, le lever de soleil qui est la résurrection du Christ, le soleil et le Christ dans l'image.
Alors, lever de soleil, la création de la lumière et le premier lever de soleil, il ne manquait que la musique, je vous propose de l'écouter. extrait de la création de Joseph Haydn. Le soleil se lève donc, vous l'avez entendu, sous la baguette d'Herbert von Karajan. Et c'est ce soleil qui se lève en permanence au musée Marmottan, actuellement dans cette formidable exposition. Stéphane Covio, le soleil religieux est représenté, on vient d'en parler, avec votre groupe. Sur quoi vous allez insister quand vous visitez cette exposition? On ne peut pas s'arrêter devant chaque tableau.
Non, en fait, je fais une sélection d'œuvres.
Oui.
Je vais emmener les gens voir les œuvres qui m'ont paru les plus intéressantes.
Alors lesquelles?
Eh bien, écoutez...
Vous n'avez pas fait le choix encore?
Si, si, je sais avec laquelle j'aimerais commencer, mais elle est en milieu de parcours, c'est le Turner. Enfin, il y a deux Turner, mais parmi les deux Turner, il y en a un, à mon avis, qui est au-dessus du lot. C'est celui qui présente un coucher de soleil, cette fois-ci, sur la terrasse de Mort Lake, qui est un quartier de Londres au bord de la Tamise. On a une anse de la Tamise qui part vers le fond. Ça ressemble un peu, vous savez, à la nuit étoilée de Van Gogh. C'est la même courbe du Rhône qu'on a devant la ville d'Arles. Et là, c'est la Tamise, mais c'est un jour. Et on a un tableau qui est quasiment monochrome. C'est fascinant. C'est une espèce de jaune atténué, c'est pas un jaune vif, c'est un jaune de fin de journée, et on a des arbres qui sont le long de l'allée qui va vers la gauche, qui montent, qui sont presque transparents par endroits tellement la lumière est intense derrière. Le soleil est jauni, le sol est jauni, les bâtiments qui sont au fond sont grisés, jaunis. Il a une manière de fondre. La ligne d'horizon, les petites barques qui s'approchent du reflet du soleil, tout disparaît dans la lumière, et il va jusqu'à faire disparaître le parapet sur lequel, au premier plan, la lumière du soleil descend. C'est impressionnant comment le soleil dévore, le soleil mange. Il y a une espèce d'érosion des matières par la lumière, une espèce de jaune intense qui se dégage là autour. Et en revanche, quand on va sur les côtés, il y a du repos, on a des enfants qui jouent à gauche, à droite, on a des barques sur l'eau avec des hommes et des femmes avec leur ombrelle. Quand on s'approche, on voit vraiment, tout est très détaillé. On se croirait à Venise à droite dans ces amusements d'un dimanche après-midi dans la Londres aisée de ces années-là.
Alors restons à Londres. Moi, j'étais frappé par la toile de Derain, Big Ben, sur la Tamise, qui est un peu un clin d'œil au tableau de Monet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a sur le pont sur la droite, prend les reflets du soleil, ce qui éclaire étrangement le tableau, car il pousse le regard à aller à gauche, le reflet sur l'eau, et à droite, le reflet sur la pierre. Et j'ai trouvé ce tableau saisissant, parce que naturellement, il y a un clin d'œil.
Oui, c'est évident.
À Monet, ouais. Notamment dans le reflet de l'eau.
Mais d'ailleurs, je pense même que Derain est allé à Londres à la demande de son marchand pour faire une réponse au tableau de Monet.
On est en 1906.
Oui, c'est ça. En 1906, il va à Londres à la demande, je crois même que c'est Durand-Ruel, mais c'est à vérifier, ouais. Je ne sais plus lequel, pour faire une réponse à Monet, à la série de Monet.
Et alors, en quoi le pont prend-il le soleil? Parce que ça semble incroyable. Enfin, on a l'impression qu'il voulait se démarquer de Monet en faisant cette toile Big Ben de 1906 que je recommande aux visiteurs de l'exposition.
C'est une toile magnifique. Et de toute façon, avec Monet et l'impressionnisme, on est dans un réalisme, ouais. Clairement. Et à partir de la fin du 19e, les successeurs de Monet, même s'ils vont être contemporains de Monet, mais en fait, ils n'appartiennent plus au même mouvement, ils vont s'éloigner du réalisme. Ils vont prendre des libertés avec la couleur que Monet ne prend pas, parce que Monet met sa couleur au service de la lumière.
Oui.
Alors, une chose qui me paraît intéressante aussi, et qui m'a frappé, je n'y avais jamais pensé, j'ai honte de n'y avoir jamais pensé après tant d'années de
travail d'observation. Non, mais il y a des révélations qu'on a à travers une exposition, et
figurez-vous,
celle-là est révélante.
Figurez-vous, voilà ce qui m'est venu à l'esprit. Il y a peu de peintres qui représentent le soleil. Il y a quelques peintres majeurs qui le font. Turner, on en a parlé. Avant lui, des peintres dont Turner s'inspire, qui est le Lorrain, le plus grand exemple. Et entre les deux, Vernet, dont on pourra parler d'ailleurs, parce que c'est un jalon entre Turner et le Lorrain. Et puis quelques autres, Monet est un exemple aussi. Et je m'étais dit, spontanément, pourquoi est-ce que le soleil s'y peut représenter? D'abord, parce que c'est difficile.
Oui.
Si on ne peut pas regarder le soleil en face, on ne peut pas bien le regarder. D'ailleurs, il est représenté soit au lever, soit au coucher. En pleine lumière, c'est quasiment impossible, même si dans l'exposition, il y a deux tentatives assez réussies de ça, d'ailleurs. Et il y a aussi une autre raison qui m'est venue à l'esprit, tout simplement en regardant les tableaux, c'est que si le soleil est dans le tableau, vous êtes condamné à peindre vos personnages à contre-jour.
Oui.
Ce qu'ils font d'ailleurs, tous. Le Lorrain, les Turner et autres, c'est obligatoire, le soleil derrière. C'est comme quand vous faites une photo, si vous prenez des gens, le soleil est devant vous, et bien les gens sont à contre-jour. Bon. Effectivement, la plupart du temps, quand on veut peindre une scène, eh bien, on a un meilleur point de vue lumineux sur beaucoup d'éléments si le soleil est derrière nous et donc tout simplement pas dans le tableau. Voilà, donc il y a au moins cette autre raison majeure de ne pas représenter le soleil dans une toile.
Oui, et on risque de prendre en effet un coup de soleil ou une illumination. Alors les contemporains présentés dans cette exposition au musée Marmottan, est-ce que vous trouvez qu'ils sont à la hauteur de la contemplation de jadis ?
Alors, c'est difficile de ce que vous dites parce que, en fait, ils ne sont pas dans une figuration réaliste
non.
de la chose. Et en fait, d'une certaine manière, il faut aussi regarder leurs tableaux indépendamment d'un souci de représentation. Et alors, moi, il y a un tableau qui m'a beaucoup frappé, c'est le dernier de l'exposition de Pienet, qui est un tableau rouge avec un soleil noir au centre. Et que je trouve très beau, avec quelque chose qui est travaillé avec de la fumée, me semble-t-il, un centre qui est noirci à la fumée. Je trouve qu'il y a un très bel effet de cette toile entre cette périphérie.
C'est une éclipse.
Oui, ça ressemble à une éclipse, oui. Exactement. Et d'ailleurs, ça entre en relation avec d'autres images de l'expo. Ça m'a vraiment fait penser à cette exposition Carambolage qui a eu lieu il y a quelques années au Grand Palais où tout était fait pour qu'on fasse des liens entre les œuvres.
C'est tellement intelligent.
Et il y a un tableau de Franz von Stuck qui est une crucifixion avec un soleil noir cerné de rouge. Évidemment, là aussi, il est question d'une éclipse au moment de la mort du Christ. Ceci dit, plastiquement parlant, il y avait ce jeu de résonance entre les œuvres. Et je pense même que le Miro, il y a un petit Miro plein de charme dans l'exposition, toujours plutôt vers la fin.
Comme toujours chez Miro.
Effectivement.
Des petits formats tout à fait plein de charme, en effet. Et puis, il y a Calder.
Et il y a Calder qui est exposé avec Miro, d'ailleurs.
Il se parle tout le temps.
Voilà.
C'est un dialogue permanent,
Calder-Miro. C'est un dialogue permanent, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une très belle mise en scène. C'est comme une petite scène de théâtre, je ne sais pas si vous avez vu vers la fin à gauche, où on a les images et la sculpture, et il y a vraiment une espèce de jeu de correspondance, de légèreté, de disque qui flotte, soit dans l'espace pour Calder, soit dans la toile pour Miro. Je trouve qu'il y a quelque chose de très heureux dans cet accrochage.
Et puis alors, il y a Gérard Fromanger, qui en 2019 peint « Impression au soleil levant », c'est-à-dire le même titre que la toile de Monet de 1872, que nous célébrons à travers cette exposition. Et c'est finalement la grande migration de l'humanité.
Oui. Alors là, on a avec la toile de Fromanger, et je crois aussi la toile d'une artiste qui est exposée juste sur le mur qui précède l'exposition, dans le hall du musée, des commandes qui ont été faites par le musée, ou alors peut-être pas par le musée, mais en tout cas des commandes qui ont été faites pour dialoguer avec soit l'exposition, soit les œuvres présentées. Et donc celle de Fromanger porte le titre « Impression, soleil, levant et quelque chose », encore une date, parce que justement c'est une manière d'entrer en relation avec cette œuvre. Et de proposer...
2019, « Impression, soleil, levant, 2019 ».
Donc c'est une œuvre toute récente, alors d'un style totalement différent. Là on a vraiment, tout à l'heure on évoquait déjà la fin du 19e siècle avec un moindre désir de représenter les apparences qui s'offrent au regard. Là on n'est plus du tout là-dedans. On est dans une composition d'atelier qui fait référence au ciel, qui fait référence à l'humanité, qui fait référence à une manière de mettre en scène la circulation des astres par ce jeu de cercles concentriques que l'artiste a repéré dans un endroit que j'ai un grand désir de découvrir, qui est l'ermitage de San Galgano à Montesiepi en Toscane. Mm-hmm. C'est une architecture circulaire avec au plafond des cercles de pierre de couleurs différentes qui évoquent la circulation des astres dans le ciel. C'est un très bel endroit. Donc c'est une manière de mettre en scène le cosmos et l'humanité qui est là, qui est comme pérégrinante dans des postures très très quotidiennes qui sont tirées.
Oui, on voit une maman qui pousse une poussette, enfin une dame qui pousse une poussette, on voit des gens qui se parlent, on voit des parasols, et c'est extrêmement paisible, c'est tout en mouvement et extrêmement paisible, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une apocalypse, on n'est pas dans une fin du monde, on est au contraire dans une humanité qui marche, et qui marche dans toutes ces sphères qui vont vers la sphère des sphères, qui est le soleil, ou comme vous le disiez en début d'émission, peut-être Dieu.
Et c'est vraiment intéressant, hein, cette image, parce que
c'est un très grand format, c'est un 200 sur 300.
Oui, oui, et on a vraiment cette association entre le quotidien, une échelle humaine, ordinaire, et le cosmique, qui est là présent, et tout ça par la peinture. Chose que faisaient d'ailleurs beaucoup de peintres, hein, parce que quand on voit les grands tableaux, c'est ce que fait Turner aussi, hein, c'est ce que fait Turner avec ce soleil couchant là-bas, qui est à l'échelle du cosmique, Et à contrario, tout ce qui est au premier plan, qui sont des scènes humaines, d'échelle humaine. Mmh. Et là, tout l'art d'ailleurs de ces grands formats là, de Turner ou de Le Lorrain, c'est de réussir la jonction entre ce cosmique lointain, immense, hors d'échelle, et cet humain petit.
Ben, ce qu'on a chez Caspar Preux et Friedrich, alors vous disiez, il y a juste deux toiles qui ne sont pas des toiles de grand format, et on connaît les grands formats de Caspar Friedrich. Malheureusement, on ne les a pas dans cette. C'est le seul bémol que je mettrais à cette exposition formidable. Mais on a toujours ce tout petit personnage qui est pris dans l'immensité de la nature et magnifié par justement l'astre superbe du soleil.
Et là, dans une esthétique vraiment romantique.
Oui.
Et d'ailleurs, qui accentue ce décalage, j'ai envie de dire, alors que l'esthétique plutôt classique d'un Le Lorrain va, tout en manifestant le décalage, créer l'harmonie entre ce premier plan d'échelle réduite et cet arrière-plan hors d'échelle humaine.
Alors, vous vouliez en parler, entre Lorrain et Turner, il y a Vernet, revenons-y.
Alors Vernet, Claude Vernet, c'est un peintre dont on ne parle pas souvent. Vous savez, il est connu pour les Ports de France, qu'il a réalisé à la demande de Louis XV. Donc on est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et en fait, c'est un peintre qui a été frappé par le Lorrain et qui va ensuite vivre à Rome. Il va épouser une Anglaise, et par son épouse anglaise, il va connaître la grande clientèle anglaise. Et les Anglais vont être très friands de sa peinture. Il fait des scènes, des marines, avec des scènes de tempête, des scènes de naufrage, mais pas seulement, des scènes tranquilles, de bord de port, avec soit la lune dans le lointain, soit le soleil, des scènes très harmonieuses qui vont beaucoup plaire au public anglais. Et donc il est le jalon entre Turner et le Lorrain, qui est la grande source d'inspiration de Turner.
Oui. Bon. Donc il y a des tableaux de Vernet.
Il y a deux tableaux de Vernet, deux très beaux tableaux de Vernet. Qui représentent tout simplement des bords de mer avec voilà. Le soleil dans le lointain et des gens qui sont soit en train de travailler, soit en train de le contempler à distance en étant de dos. Et il y a vraiment beaucoup de correspondances. Vous voyez ce que je suis en train de dire là ?
Oui.
Il fait penser à ce qu'on a dit avant sur d'autres peintres.
Mais oui.
Il y a un vrai chemin.
Et c'est là où l'exposition est remarquable, et le travail de Marianne Mathieu et Michael Philippe, les deux commissaires de cette exposition, l'une du musée de Marmottan, l'autre du musée de Barberini, est très, très juste, je trouve. En plus, on est dans... Bon, c'est le musée Marmottan, c'est pas un grand musée, c'est-à-dire qu'on on s'y promène. Enfin.
C'est ça, et c'est une exposition qui est faite pour la dégustation.
Voilà, exactement,
c'est le mot. Il y a de quoi satisfaire l'œil des amateurs, des gens qui s'intéressent à la peinture. C'est pas pléthorique, c'est digeste, et on a vraiment de très belles choses, de belles curiosités à découvrir.
Et on n'a pas besoin de prendre de lunettes de soleil pour regarder ces soleils, ce qui est assez... ce qui est assez formidable. Il y a un Signac, moi, qui m'intéressait. Vous l'avez vu ?
Ouais, bien sûr que je l'ai vu. C'est un des tableaux qui sont le plus mis en valeur, me semble-t-il. Mmh. On ne peut pas rater cette espèce d'oranger. Cet oranger intense de soleil qui est caché, me semble-t-il, dans le souvenir que j'ai. Il est déjà descendu, mais il y a une intense lumière au-delà du panorama du premier plan où on voit le port de Saint-Tropez, je crois, quelques voiles, de la végétation. Et on a cette intensité lumineuse là-bas derrière. Il y a aussi un Maurice Denis fabuleux. Hein. On n'en a pas parlé, mais alors là, franchement, très, très beau.
Aussi. Merci Stéphane Covio. Vous allez organiser des visites de cette exposition. On peut prendre rendez-vous sur votre site Venez et Voyez, c'est ça ?
C'est ça, à partir du 12 octobre, et puis dans un courant d'octobre, novembre, décembre.
Alors en tout cas, on peut aussi y aller seul, ou en famille, ou en amoureux. Marmottan est un musée intime, idéal pour une promenade en amoureux. Alors l'exposition s'intitule Face au soleil, un astre dans les arts, le musée Marmottan, et 2 rue Louis Boyer, dans le 16e. C'est ouvert tout du mardi au dimanche, de 10h à 18h, et nocturne le jeudi à 21h. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation du studio. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site radio-notre-dame.com, sur la chaîne YouTube et sur Facebook, grâce au miracle de Louis-Marie Picard. La semaine prochaine, Mélina de Courcy nous emmène à Marmottan, encore décidément, pour reparler de Monet, décidément, dans un dialogue surprenant. Demain, c'est Culture Club Littérature et Cécilia Duterre me rejoindra pour recevoir Brigitte Giraud. Il y sera question d'amour et de moto. Bonne journée.